Amande Hart, Séverine, journaliste anarchiste. À 17h, pause, petit goûter bien entendu, avec petite restauration, à nouveau le café, à nouveau le thé et toutes ces sortes de choses. 17h30, Hélène Hernandez, Nelly Trumel, peintre féministe et anarchiste. 18h15, Priscilla Newell, danse, quête de liberté. 19h, Jean Aubel, parcours d'un chanteur libertaire. 19h45, Sylvia Krotowska, Joël Guéraud et Guy Girard, rêve, révolte, révolution, une anarchéologie du surréalisme. À 20h30, puisqu'il faut bien se quitter un jour, ce sera la clôture. En parallèle de tout cela, deux expositions, Amande Hart et Expo Surréaliste, avec table de presse toute la journée, table de presse de Publico et Radio Libertaire qui sera en direct. Qu'on se lise!
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Nous vous proposons une rediffusion de l'émission L'Entonnoir du 21 mai 2025. Nous invitions André Bitton du CRPA et c'était sur la loi sur l'aide médicale à mourir. Et puis on parle aussi de l'isolement et de la psychiatrie privée. Voilà, c'est et donc l'entonnoir qui commence sur Radio Libertaire. L'entonnoir, émission critique de la psychiatrie.
En une assez forte dépression nerveuse en moi, dont je souffre depuis plusieurs années, qui a eu naturellement des conséquences très, très concrètes et matérielles sur ma vie, dans tous ces aspects. Mais qui surtout me hante au quotidien, représente un poids pour moi qui me colle à...
Tu es fou enfermé, raison déconnectée, on t'attache à ton lit, tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir, c'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs, bois ton médicament. Tu es dans quatre murs, des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois, la folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà notre veneuse, ta solution aqueuse. Si c'est ça la médecine, je peux faire la guillotine. C'est ça la médecine. Je peux faire la guillotine. C'est ça la médecine. Je par la diocèse.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission comme toutes les semaines, critique de la psychiatrie. Aujourd'hui avec le CRPA, représenté par André Bitton. Bonjour André.
Bonjour.
Alors encore au sommaire, un sommaire riche cette fois. On va parler de la loi sur l'aide médicale à mourir, qui est en discussion depuis un certain temps au gouvernement. Et la jurisprudence du 9 avril sur l'isolement en contention. Et puis un phénomène émergent qui nous vient d'Italie, la privatisation de la psychiatrie.
Voilà, tout à fait. Alors tout d'abord une annonce, nous faisons une conférence débat à l'AGK, tant en présence qu'en visioconf, le mercredi 11 juin prochain de 14h à 18h. Alors on a des interventions intéressantes qui sont prévues. Première intervention, la jeune psychiatre, la docteure Maëva Musso, a initié une consultation, je suppose dans le privé, sur la déprescription en psychiatrie. Comment déprescrire, diminuer les doses et faire un sevrage, ce qui est très très demandé et ce qui est même actuellement encouragé, je veux dire, par fondamental.
Ah oui.
Car même c'est même recommandé, il y a même une recommandation de l'HAS, mais ça c'est dû au fait qu'ils sont bien obligés de considérer que l'inflation des personnes chronicisées au très long cours sur le circuit psychiatrique induit des dégâts en santé publique énormes et des surcoûts extrêmement importants. Ça a même été évalué par la Cour des comptes, et il me semble, les grands argentés qui surveillent, qui contrôlent les dépenses de la sécurité sociale, le maximum du coût induit de la santé mentale est dans la chronicisation pas nécessairement légitime de files actives à travers le pays, avec des médicaments pris à vie et tout ce que ça entraîne. Les comorbidités, l'improductivité, etc. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Alors, cette intervention sera suivie d'un débat, évidemment. Hein. Là, on va voir les habituels problèmes. Oui, mais moi, j'ai pas pu, j'ai essayé, puis j'ai rechuté les problématiques habituelles du sevrage. La deuxième intervention, c'est Mathieu Bellassène a continué à faire la mobilisation sur son bouquin « Abolir la contention ». Il a tout de même obtenu que Le Monde prenne position, hein, et qu'il y ait une enquête du journaliste Brunner là-dessus, vraiment très détaillée, 63 feuillets quand même. Et donc, en troisième intervention, Démocratie va intervenir pour nous présenter ses bases et qu'on puisse en discuter. Parce qu'après tout, on n'a qu'à faire connaissance. Hein
tout à fait.
On n'a qu'à faire connaissance. Et on n'est pas forcément d'accord. Hein. Alors, sachant que ces conf-débats, c'est ce qui tient lieu à Paris de COFORT, de Centre de Formation Rétablissement. Parce que depuis le début, depuis 2020, comme il n'y a pas de COFORT à Paris, parce que la logique institutionnelle avec les psychiatrisés de service, elle est ce qu'elle est, donc on fait ça. Voilà, donc ça, très intéressant. Alors, maintenant, le 12 mai, après un passage en commission des affaires sociales, à l'Assemblée nationale, en séance de l'Assemblée, les deux propositions de loi qui ont été disjointes sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir, c'est la légalisation de l'euthanasie, sont en discussion. Et si la proposition... Alors, c'est les deux propositions de loi qui sont signées par le député ex des Deux-Sèvres Charente-Maritime, Olivier Falorni, qui est un député qui était antérieurement PS, qui est passé Modem, qui est franc-maçon. La particularité de la légalisation de la proposition de loi sur l'aide à mourir, qui avait été adoptée par le Parlement par l'Assemblée nationale début juin 2024, juste avant la dissolution. Le processus d'adoption avait été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin prononcée par le président Macron. Le propre, c'est que cette proposition de loi met d'accord l'ensemble de la gauche. L'ensemble de la gauche. Il y a très peu de voix dissidentes et donc s'opposent à cela. C'est-à-dire que nous, les réserves qu'on émet, les réserves venant de l'intersyndicale des psychiatres, et les syndicats psychiatres sont de gauche, Et les réserves émises par les dévalideuses, les féministes anti-validistes, porteuses de handicap, qui portent une voix très intéressante, notamment avec Elena Chamorro, les nôtres propres ne sont répercutées à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle, qu'on se tienne bien, que par des députés Les Républicains et Rassemblement National, qui, eux, d'abord, ils le font au nom de l'éthique chrétienne, hein, c'est-à-dire c'est les mêmes logiques qui ont fait que ces bords-là étaient contre le mariage pour tous, contre la constitution du VG, etc. Oui. etc. Hein, bon, et là, sachant que les groupes ont décidé de ne pas donner de consigne de vote et de laisser chaque député libre de son vote en conscience. Alors, le problème qui se pose, c'est que les adversaires les plus acharnés de ce que nous, on oppose sur le champ handicap, oui. de la légalisation de l'euthanasie, se trouvent du côté France Insoumise, écologiste, parti GDR nettement moins, parce qu'il y a des réserves habituelles, notamment le député Stéphane Peu, et ce qu'avait la dénonciation, enfin, la problématisation qu'avait amorcé en 2024 Pierre Dharréville, député communiste de Martigues, qui n'a pas été réélu. C'est-à-dire, un contre-humaniste, ça pose problème, hein, la légalisation sur le champ handicap, la légalisation de l'euthanasie, hein, quand même, ça pose problème. Alors voilà, ça, cette particularité. Alors, déjà, les travaux en commission avant le 12 mai avaient déjà campé le problème. Les principaux amendements, la teneur des principaux amendements a été balisée. Et là, donc, on voit une question de société dans laquelle nous autres, lorsqu'on se méfie d'une légalisation de l'euthanasie à l'endroit des personnes psychiatrisées, très détruites, très pauvres, qui ne sont pas nécessairement majeures protégées, que le corps médical ne considère pas nécessairement comme inapte à consentir, bien, cette ouverture dans la proposition de loi qui est en cours d'adoption pose problème. Alors, la ministre Vautrin a eu beau rétorquer, attendez deux minutes, on n'est ici qu'à la première lecture. Il va y avoir une première lecture, une navette au Sénat, et à la rentrée, une deuxième lecture, puisque ces deux propositions de loi ne sont pas en procédure accélérée à une lecture, mais à deux lectures. Et que donc, ce ne sera pas avant le mois d'octobre, en gros, que les deux textes seront adoptés. Donc, d'ici le mois d'octobre, on ne sait pas bien ce qui peut se passer. Et le président Macron a fini par dire à sa dernière intervention à la télévision qu'il n'excluait pas de soumettre cette question à référendum. Mmh. Moi, je veux dire que si c'est du côté des réserves qu'on émet, dont je vais donner lecture, on n'a pas nécessairement intérêt à un référendum, pour une raison très simple, c'est que l'opinion publique dans l'ensemble risque fort de valider la légalisation de l'euthanasie de façon élargie, sans trop de problèmes. Alors, donc on en est là. Alors, la ministre Vautrin, alors bon, moi j'ai suivi sur le portail Assemblée nationale, bon, un peu des débats. La ministre Vautrin, interviewée hier, alors que les débats sont poursuivis très tard à l'Assemblée nationale, disait, là, dans une interview publiée par Le Monde, « Je suis sur un fil comme une funambule ». Parce que la question de cette légalisation dans un pays à tradition catholique, comme la France, pose un véritable problème, puisque la France, c'est pas tout à fait l'Italie. Hein, pas tout à fait. L'Italie est carrément très, très centrée quand même sur le Vatican. Hein. La France a une traditionnelle opposition entre la gauche anticléricale et les camps propres, enfin, autour de l'Église. Hein. Ouais. Bon, donc...
Ça divise, en tout cas. C'est une question qui divise. Et pour les uns, c'est une loi qui serait validiste et inégalitaire, et d'autres, pour les autres, ou et eugéniste, et pour les autres, vue comme une loi progressiste et indispensable contre la souffrance.
Oui. Alors, ce qui a été, on va revenir là-dessus. Oui. À mon sens, les députés qui ont le mieux campé et affirmé les positions que nous on dénonce, c'est notamment Juvin, qui est un médecin. Il a dit, écoutez, si on prend tous les critères, je vais donner la lecture, les critères dits cumulatifs, une personne ayant développé une atteinte schizophrénique grave, très chronicisée, abîmée, en stade très avancé, incurable. La schizophrénie, cliniquement, est dite incurable. Ce n'est pas vrai, mais bon, enfin, au niveau clinique officiel, bon, c'est ainsi. La personne est très dégradée. Elle en souffre énormément. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle va être habile à demander à être euthanasiée. Il suffira qu'on considère quel est son discernement. Or, ces personnes-là ne sont pas nécessairement majeures protégées. Pas nécessairement. Et d'une part, alors évidemment, il y a le garde-fou de ce que la personne doit avoir son discernement et qu'on risque d'opposer que dans le cas de la schizophrénie, etc. Mais dans ce cas, il y a toute une retombée. C'est que si on rentre dans cette logique, alors à ce moment-là, il risque de s'appliquer à l'avenir un principe de précaution selon lequel toute personne en chronicisation psychiatrique devra être mise majeure protégée et plus précisément sous tutelle complète pour se garantir d'éventuels ennuis au cas où la personne demande à être euthanasiée. Parce que le mieux, c'est que dans cette législation, il est prévu une pénalisation pour les médecins et l'environnement qui entraveraient une demande d'euthanasie. Et il a été rejeté un amendement qui pénaliserait la manipulation pour aller vers une euthanasie qui ne soit pas consentie. Là-dessus, il est vrai que le code pénal prévoit déjà l'abus de faiblesse, et que, bon, c'est suffisamment couvert. Donc voilà, on en est là. Alors d'abord, tout d'abord, quels sont les articles qui ont le plus prêté lieu à débat? Alors, à mon sens, ce qui est venu de façon répétitive et qui a été systématiquement retoqué par les rapporteurs, le rapporteur général, la rapporteure ad hoc et le gouvernement, c'est l'article 4, c'est-à-dire les critères d'admission. Alors, l'article 4 stipule la chose suivante. Ça serait inséré dans le Code de la santé publique, à l'article 1111, etc., en complément de la législation antérieurement adoptée sur les soins palliatifs. Pour accéder à l'aide à mourir, pour accéder à l'euthanasie, si on veut simplifier, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes, être âgée d'au moins 18 ans. Les écologistes et France Insoumise ont réclamé qu'on abaisse l'âge de la majorité au motif que des gamins peuvent souffrir énormément et qu'ils doivent pouvoir demander à sortir. Enfin, c'est une porte ouverte absolument énorme quand même. Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. France Insoumise et écologistes ont demandé à ce que cela, par souci d'égalité entre les personnes résidant en France, soit retiré. Être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Et là-dessus, la HAS a donné un éclaircissement avec un avis récemment publié en disant que les médecins ne peuvent pas prédire l'espérance de vie à partir de bon. Et là-dessus, on a eu le député Juvin notamment qui a rétorqué à titre... un autre député aussi dont j'ai plus le nom, les Républicains, qui est spécialiste d'hémodialyse, qui a dit, moi, dans mon service, à l'époque où j'exerçais, des dialysés qui doivent être dialysés toutes les semaines, ils remplissent tous les critères. Vous faites quoi? Alors qu'ils ont des dizaines d'années d'espérance de vie, potentiellement. Et un autre député a affirmé la même chose pour les pathologies psychiatriques. La même chose. Une dépression très grave. Une dépression... Bon. Alors, ça, c'est trois. Donc, âgé d'au moins 18 ans, de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Quatre. Alors, c'est là le problème. Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Alors, nous, on a soulevé dans une tribune coécrite avec Mathieu Bellassène que la question du critère 4, présenter une souffrance physique ou psychologique, ça c'est un problème, car ce « ou » est exclusif. Et la rapporteure auprès de la majorité EPR l'a souligné, la ministre Vautrin aussi, ce n'est pas une souffrance physique et psychologique, mais une souffrance physique ou psychologique détachant l'atteinte psychologique et psychiatrique, évidemment, de l'atteinte somatique, autonomisant l'atteinte psychologique, donc psychiatrique, et faisant qu'en soi, une atteinte psychiatrique, bien, tels que bon, phase avancée, pronostic vital, etc., les personnes sont éligibles. Mais quand on voit une personne qui a été à la rue, qui a un parcours de dégradation, un parcours de stupéfiants, que les institutions rejettent, qui n'est pas nécessairement majeur protégé, et qui dit « moi, je remplis ces critères ». Alors en plus, là-dessus, il y a toute une série d'amendements, et systématiquement, le « ou » a été conforté par le rapporteur général, par le gouvernement, par la ministre Vautrin, et le « et », puisque plusieurs députés, notamment une députée très brillante, les Républicains de Vesoul, le « et », remplacer le « ou » par le « et », donc souffrance physique et psychologique, a été systématiquement retoqué. Là-dessus, un député France Insoumise a eu une idée qui est intéressante, qui est, écoutez, simplifions, il a proposé de supprimer physique ou psychologique, et de dire présenter une souffrance liée à cette affection, point. Alors là, ça a été retoqué en disant « vous ouvrez beaucoup trop ». Alors, la question, tout au long des débats, la question, c'est l'angle d'ouverture de l'habilitation à demander à être euthanasié. Quelle ouverture ? Or, ce qu'ont rétorqué, avec notamment nos arguments, les députés droite et extrême droite, c'est que cette ouverture est énorme. L'ouverture actuelle est énorme. La ministre et le rapporteur ont rétorqué que non, vu être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, vu qu'il s'agit d'un pronostic vital, phase avancée ou terminale. Alors non, c'est restreint. Alors, ce qu'ont rétorqué les députés, sur la base des arguments développés notamment par les dévalideuses, et notamment par Mathieu Bellassène, le texte qu'on a coécrit, c'est que dans tous les pays qui ont légalisé l'aide à mourir, l'euthanasie...
Et ils sont nombreux.
Oui, ils sont nombreux. Hein, oui, ils sont nombreux. Et sur lesquels on a des chiffres. Et il faut noter que l'Espagne aussi l'a fait. L'Espagne est un pays profondément imprégné du catholicisme. Profondément. Et l'Espagne est à avancer. Et bien donc, au fur et à mesure des années d'application, de facto, le champ d'ouverture a été ouvert.
Oui, c'est-à-dire
serré, l'ouverture a été accrue.
Serré au départ et s'est élargi avec la pratique.
Oui,
avec
le champ d'application a été accru.
Okay.
Accru. Et même, la progression au fur et à mesure est, je peux dire, passablement problématique, notamment pour le Québec. Donc voilà, donc ça c'est ça. Donc je vais donner lecture des tribunes, des principales tribunes qui ont été déposées. Donc, alors la nôtre, co-signée avec Mathieu Bellassène, spécifique au champ psychiatrique, les dévalideuses sur le champ du handicap, mais il y a également la position de l'intersyndicale des psychiatres, je pense que je vais la mettre en tête. Puis après, un psychologue clinicien qui a posé la question du couplage avec les directives anticipées. Les doyens dans les facs de médecine disant qu'ils s'opposent à la formation de l'aide active à mourir dans les études médicales, donc ça sera boycotté. Donc cela, alors c'est quand même assez intéressant. Alors nous commençons hiérarchiquement par l'intersyndicale, parce que la façon dont ils ont posé la problématique est quand même assez intéressante. Alors sachant que les signataires sont Collège national des universitaires de psychiatrie CNUP, Fédération française de psychiatrie, la FFP rassemble les sociétés savantes en la matière, le Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie, Syndicat des psychiatres français, c'est privé, Syndicat des psychiatres des hôpitaux, Union syndicale de la psychiatrie, nos camarades gauchistes, hein, pour qui moi je suis qu'un pauvre fou, etc. Donc le Syndicat universitaire des psychiatres, le Syndicat national des psychiatres privés, le Syndicat des psychiatres d'exercice public, SPEP, et l'intersyndicale de défense de la psychiatrie publique. Ils sont tous de gauche. Alors, vigilance sur les implications psychiatriques de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, monsieur le Premier ministre. Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner la PPL, la proposition de loi relative à la fin de vie, encadrant l'aide à mourir... PPL numéro 100, nous souhaitons attirer votre attention sur un point particulièrement sensible du texte porteur de risques de dérive en matière de santé mentale. Le texte prévoit que les personnes concernées puissent demander une aide à mourir si elles présentent une souffrance physique ou psychologique lié à une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale. Lorsque cette souffrance est soit réfractaire au traitement, soit jugée insupportable par la personne elle-même, notamment en cas de refus ou d'arrêt du traitement. Les troubles psychiatriques ne sont pas explicitement exclus du champ d'application de la loi. C'est le moins qu'on puisse en dire. Cette absence d'exclusion explicite qui a été motivée par la ministre, motivée par Olivier Falorni, motivée par la rapporteure du camp présidentiel à l'Assemblée nationale, de tous les côtés. Les affections psychiatriques sont incluses. Bien. Cette absence d'exclusion explicite serait justifiée par le principe de non-discrimination des personnes souffrant de troubles mentaux. On ne va pas vous discriminer, surtout si vous voulez être euthanasié.
Vous aussi, vous pourrez en bénéficier, entre guillemets.
Cependant, et là on rentre dans le gras, nombre de patients atteints de pathologies psychiatriques graves et persistantes, dépression sévère, schizophrénie, troubles de la personnalité, parfois soignés sans leur consentement, pourraient revendiquer remplir les critères fixés par le texte, souffrance psychologique jugée insupportable, affection grave et incurable, mise en jeu du pronostic vital du fait d'un risque suicidaire ou des comorbidités somatiques. Moi, j'ai assisté à l'agonie de patients très chronicisés et très enkystés dans des schizophrénies noires, hein, qui étaient institutionnalisées depuis leur adolescence, hein, quand même. Bien. Or, l'évolution des troubles mentaux est imprévisible et les moyens sont nombreux pour soigner les personnes qui en souffrent. Nous alertons sur plusieurs points de vigilance. Une demande d'aide à mourir, même rationalisée par une douleur physique ou psychique, n'est-elle pas, dans certains cas, une autre façon d'exprimer une intention suicidaire ? L'accès à l'aide à mourir pourrait alors devenir une réponse prématurée et irréversible à une détresse curable et réversible, court-circuitant les dispositifs de soins. Les dispositifs destinés à améliorer la santé mentale ont parmi leurs missions essentielles de lutter contre le suicide et de le prévenir. Une telle loi pourrait brouiller les repères pour les professionnels et les proches, rendant plus difficile leur intervention en cas de crise suicidaire. L'évaluation du discernement et de l'opportunité de proposer des soins, apprécier la capacité d'une personne à exprimer une volonté libre et éclairée est un acte complexe, particulièrement en présence de troubles psychiques. En outre, les soins psychologiques ou psychiatriques sont dans de très nombreux cas de nature à infléchir une demande de mort exprimée. Ces aspects ne peuvent être laissés à l'appréciation subjective des seules équipes en charge, sans procédure claire et garantie d'une évaluation indépendante du discernement, d'une part, de l'opportunité de proposer des soins, d'autre part. Enfin, l'absence d'articulation, et ça c'est un point très important, l'absence d'articulation explicite entre ce texte et la politique nationale de prévention du suicide constitue une incohérence majeure à l'heure où près de 9000 personnes se donnent la mort chaque année en France. Dans ce contexte, nous appelons à des précautions qui nous paraissent indispensables. On va dire qu'ils se font mise, hein, on veut pas, voilà, parce que quand même, sont des agents publics, hein, et puis ils sont, qu'ils soient de l'exercice public ou privé, les médecins psychiatres travaillent sous la coupe des ARS, les agences régionales de santé, qui organisent les soins sur le territoire. L'instauration d'une évaluation psychiatrique indépendante chaque fois que jugée nécessaire par les équipes soignantes ou les proches, lors d'une demande d'aide à mourir, afin d'apprécier la capacité de discernement, de repérer les éventuels troubles psychiatriques caractérisés et d'être dans tous les cas en mesure de proposer des soins susceptibles d'infléchir la demande de mort. Un délai minimal de réflexion permettant d'évaluer la stabilité et la cohérence de la demande dans le temps et de s'assurer qu'elle ne relève pas d'une réaction aiguë ou transitoire. Un rappel clair des principes et des objectifs de la prévention du suicide, afin que ce projet de loi ne fragilise pas les efforts de santé publique menés depuis des années et qui portent déjà leurs fruits. Alors, nous avons conscience de la complexité de ce débat, mais le respect de l'autonomie doit se construire dans un cadre rigoureux, éthique et protecteur. Ce cadre doit garantir à toutes les personnes, y compris celles atteintes de troubles mentaux, un accès équitable aux soins sans stigmatisation ni abandon. Parce que d'évidence, les personnes qui vont être le plus concernées sur le champ psychiatrique sont des personnes avec atteinte grave, abandonnée, rejetée des circuits. Parce que, en quelle sorte, il y aura une indication par défaut ? Parce que même si les personnes ne se le voient pas indiquer expressément, quand les portes sont fermées, on sait, ça va savoir que cette porte est ouvrable. Ouvrable. Avec tout ce que ça veut dire. Alors nous, notre tribune, co-signée avec Mathieu Bellassène, le texte est principalement, c'est principalement Mathieu qui l'a rédigé, mais je l'ai enrichi. Le projet de loi, juste une question. À l'avenir, si la légalisation de l'euthanasie fonctionne, alors même que dans une consultation de psy, un patient suicidaire serait antérieurement orientable vers soit vous changez d'idée, soit le médecin lui dit « je vous place en mesure de soins périliminants » ou « je vous envoie à l'hôpital ». Et puis c'est tout, hein. Je ne vais pas chercher à discuter puisque vous faites état d'une volonté de vous suicider et qu'en plus vous demandez que je vous aide. Eh bien, une pareille réponse institutionnelle pourrait être tout à fait court-circuitée. Il faudra dire, vous voulez que je vous aide ?
Eh oui.
Non, enfin, tu vois quoi, je veux dire ça. Alors qu'on nous bassine, on nous a bassiné au niveau des ARS du ministère de la Santé toutes ces années, y compris des associations, puisque personnellement, on m'a demandé d'intégrer un plan d'aide pour les suicidants en tant que président d'association. Donc il y a un plan organisé par la DGES, organisé par le ministère de la Santé contre le suicide. Bien. Donc, soigner ou se suicider ? C'est le titre. Ah non, pardon. Se soigner ou se suicider ? Oui. Bon. Le projet de loi relative à l'aide à mourir sera débattu le 12 mai 2025 à l'Assemblée nationale. Le docteur Mathieu Bellassène et André Bitton alertent sur ce projet qui invisibilise la pénurie de services publics et évite de remettre en question la carence de soins psychiatriques universels et accessibles en France. Le projet de loi, alors ça c'est une erreur, c'est une proposition de loi, relative à l'aide à mourir sera débattue le 12 mai 2025 à l'Assemblée nationale. L'article 4 ouvre ce cadre aux personnes ayant des troubles psychiatriques. Pour cette année santé mentale grande cause nationale, s'agit-il d'une nouvelle pierre à l'édifice de la déstigmatisation ? À l'instar du cancer et du diabète, les maladies mentales sont envisagées de façon trompeuse comme des maladies chroniques comme les autres. Vu de loin, cela sonne comme une nouvelle émancipation. Les personnes avec des troubles psychiatriques seraient désormais traitées de façon égale aux autres malades. Ici, elles bénéficieraient, comme les autres, de ladite aide active à mourir, que ce soit pour une pathologie somatique associée à leurs troubles psychiatriques ou pour leurs troubles psychiatriques. Cet amalgame faussement déstigmatisant nie les spécificités des troubles psychiques. Aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, où l'euthanasie a été légalisée, l'extension de ces indications s'est portée sur les malades mentaux, enfants, adultes, personnes âgées étiquetées dans certains pays comme incurables. Déjà, certaines schizophrénies et dépressions sont considérées comme résistantes. De la résistance à l'incurabilité, la ligne rouge peut être vite franchie. Auparavant, la lobotomie, désormais l'euthanasie. Depuis la loi du 5 juillet 2011 qui a légalisé la contrainte aux soins en ambulatoire, parce que ça on ne le voit pas, mais moi enfin, je le rappelle, la logique de l'intériorisation de la contrainte aux soins, les patients intériorisent cette contrainte aux soins, se couple au discours médiatique qui véhicule un amalgame entre pathologie mentale, dangerosité, indignité personnelle et sociale. Or, les personnes suivies pour pathologie mentale au très long cours sont conduites à intérioriser cet amalgame et à se considérer elles-mêmes comme indignes de continuer à vivre. Il y a l'intériorisation de l'indignité de la condition qui amène à ce que des personnes très chroniques demandent à mourir d'elles-mêmes. Nous, on est affrontés, c'est ceux qui ont été institutionnalisés le connaissent cette logique. Le seul garde-fou qui subsiste au sein du projet de loi est la nécessité d'une demande libre et éclairée. Cela suffira-t-il devant les politiques de mise à l'écart des plus fragiles d'entre nous, l'organisation de déserts médicaux et psychiatriques créée par les pouvoirs publics et qui institue sans que la population s'en aperçoive un nihilisme thérapeutique collectif. Tout espoir de soins, de rétablissement, de guérison se trouve bien souvent enterré. Là-dessus, moi, je pense expressément aux drames familiaux, hein. Les drames familiaux épais avec lesquels la personne passe du sein de la famille ou en périphérie aux institutions, puis aller-retour incessant, c'est très fréquent et c'est très grave. Aujourd'hui, nous alertons sur ce projet de loi, c'est une erreur de rédaction, sur cette proposition de loi, car il invisibilise la pénurie des services publics et évite de remettre en question la carence de soins psychiatriques dignes, universels et accessibles en France. En effet, la campagne de communication santé mentale grande cause nationale ne suffira pas à masquer la terrible réalité vécue au quotidien, un manque de soins psychiatriques de proximité, la fermeture des lieux de secteur public gratuit, et ce ne sont pas la création de dispositifs tels les centres experts, plateformes de diagnostic, d'évaluation et d'orientation qui résoudront ce problème. Ces dispositifs non seulement ne soignent pas, mais plus grave, ils masquent les pénuries en se contentant souvent d'orienter les personnes vers des structures et des professionnels de secteur privé qui n'existent pas, pas encore, ou plus, ou qui sont insuffisants. Les institutions publiques encore existantes sont débordées. Il s'y manifeste de plus en plus des contre-attitudes chez les soignants, créant de la maltraitance institutionnelle. Ça, c'est exact. Des patients en décompensation renvoyés chez eux faute de place, des services d'urgence débordés avec recours important aux contentions, des contraintes physiques, chimiques et légales qui se font passer pour des soins, des droits fondamentaux régulièrement bafoués, des pratiques maltraitantes banalisées. La rue et la prison regorgent de personnes malades psychiques, faut-il les euthanasier ? On devrait dire, il aurait dû mettre plus exactement Mathieu Villacène, doit-on les conduire vers des demandes pseudo-libres et éclairées vers l'euthanasie ? Ben, je pense qu'il vaut mieux dire ça. Comble du malheur, le refus de soins institué par les pouvoirs publics, concourt à des drames comme dans les Ardennes en août 2024 où une personne nécessitant des soins a été tuée par les forces de l'ordre dépassées. Face à ce constat, maintenant le permis de tuer pour les forces de l'ordre, déjà la gendarmerie l'avait, mais maintenant la police l'a. C'est-à-dire que si tu agresses un flic et celui-ci, il peut tirer. Ouais. Alors face à ce constat, faut-il se résigner à ce que le recours au suicide assisté soit la dernière planche de salut, que la dignité à mourir éclipse l'actuelle indignité de la vie proposée aux personnes avec des troubles psychiatriques ? Doit-on supporter que des normes utilitaristes, validistes, psychophobes dictent quelle vie vale et quels autres noms ? Ce qu'a très brillamment défendu Elena Chamorro, qui est une universitaire qui, suite à un accident de circulation, est sur chaise. Et qui développe, elle est excellente, elle a un sens de l'humour, elle est dans les dévalideuses. Doit-on supporter cette proposition d'euthanasie ouverte aux troubles psychiatriques s'inscrit dans un décharnement thérapeutique, un acharnement antithérapeutique. Car le problème, ce n'est pas tellement qu'on légalise l'euthanasie, moi personnellement je suis pour qu'on légalise l'euthanasie, mais qu'il y ait une telle ouverture. Ah ben mince alors. Les traitements à mettre en place sont connus. Avoir des lieux d'hospitalité et d'accueil accessibles tant qu'il faut, des lieux de répit, des pratiques de soins et d'accompagnement diverses et hétérogènes, une réinsertion dans la cité qui ne se limite pas aux déstigmatisations de façade ou aux politiques inclusives centrées uniquement sur la reprise du travail, limiter les abus et la répétition des traumas dans nos familles, dans nos institutions et dans la société. Commençons par prendre en charge correctement les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées en souffrance psychique, afin de construire collectivement de la vie vivante, de la solidarité, de l'hospitalité, soigner plutôt que suicider, se soigner plutôt que se suicider. Voilà, donc il y a cette tribune, et il y a donc la tribune, la lettre aux députés des dévalideuses, qui est pas mal dans le genre. Alors moi, je leur avais répondu sur un commentaire sur Mediapart. Pour ma part, je suis pour une légalisation mesurée de l'aide à mourir. Par contre, je suis contre, et je ne suis pas seul, le fait que soient incluses parmi les personnes aptes à demander l'euthanasie les personnes atteintes de troubles de pathologie psychiatrique. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir... Ce qu'ils auraient dû faire, c'est séparer les personnes développant des troubles psychiatriques et réserver une proposition de loi ou un projet de loi à part avec une réflexion sur une commission ad hoc à part. Ça aurait été... mettre un signe égal entre pathologie somatique et pathologie psychiatrique, monsieur Passe, ça pose problème. Alors, les dévalideuses, donc, les dévalideuses sont des femmes avec handicap dans toute leur diversité et qui contribuent à rendre public et à défendre leurs problématiques. Elles s'inscrivent dans une démarche intersectionnelle, féministe et anti-validiste. Donc elles sont tout à fait dans la mode, le mainstream Mediapart.
Plus que ça, quand même.
C'est plus que une nécessité. Bien. À partir du 12 mai, c'est une lettre députée, mais elle est bien faite, hein. C'est vraiment très intéressant de la lire. À partir du 12 mai, les députés entament l'examen de la proposition de loi relative à l'accompagnement aux soins palliatifs et de la proposition de loi relative à l'aide à mourir. Nous, militantes anti-validistes et handicapées, interpellons les députés qui se veulent progressistes. L'euthanasie n'est pas de gauche et vous manquez d'une analyse anti-validiste pour le comprendre. Je leur avais répondu, depuis quand l'hygiénisme n'est pas de gauche? Historiquement, l'hygiénisme est de gauche comme de droite. C'est fou. À telle enseigne que Édouard Toulouse, qui était psychiatre, aliéniste, qui a initié dans les années 20, ça a été un des initiateurs de qui est une naissance d'un ministère de la Santé, qui a initié le premier service libre et l'ouverture, le premier pavillon libre, le pavillon Henri Roussel, à Sainte-Anne, était un très chaud partisan de l'eugénisme, de la stérilisation. On fait sortir les aliénés, mais on les stérilise. Il était de gauche, hein. Bon, tu vois. Alors, donc, chers députés, je comprends que votre décision de voter la loi de fin de vie est déjà prise. Et je comprends pourquoi. Voter cette loi est très séduisant, elle est populaire et vous donne une image progressiste et positive. En somme, c'est un moyen facile de faire quelque chose qui sera apprécié par la majorité de la population. À l'inverse, ce que nous vous demandons est plus difficile, prendre du recul, ne pas tomber dans une logique simpliste. Nous vous demandons de faire un choix qui risquerait de vous donner à tort une image conservatrice. Pourtant, ce choix moins populaire est celui à faire si vous êtes réellement au soutien pour les plus vulnérables d'entre nous. Dans une tribune parue dans le journal Le Monde à lire ici, un professeur d'éthique néerlandais explique comment il a changé d'avis sur la loi de fin de vie en voyant que le nombre d'euthanasie dans son pays est en constante progression aux Pays-Bas et concerne des personnes qui ne sont pas réellement en fin de vie. Cette constatation a également été faite au Canada, où de plus en plus de personnes précaires ont accès à l'assistance médicale à mourir pour des raisons en réalité purement financières. Créer une loi telle celle-ci met en grande détresse de nombreuses personnes handicapées. Je vous invite grandement à regarder le documentaire « Better Off Dead » dans lequel Liz Carr, actrice et militante anti-validiste, présente notamment le validisme de la société, présente comment le validisme de la société normalise l'idée que les personnes handicapées seraient mieux mortes. Vous pouvez aussi lire cette foire aux questions du collectif canadien Toujours Vivant, Note d'aide tiède, pour le comprendre. Moi, je sais ce qu'il en est. Moi, j'ai eu les gens de ma famille, mes parents, me disant en face qu'ils auraient préféré que je me suicide, et comme malheureusement je n'ai pas fait, ils me financent. Ou d'autres parents avec leur fille gravement dépressive, si on l'avait su, on ne l'aurait pas mis au monde. Hein, d'accord. Ce serait plus simple que tu te suicides. Enfin, voyons. Qui d'entre nous n'a pas... Alors, je vous invite également à prendre le temps de lire l'interview de la philosophe handicapée et anti-validiste Charlotte Puiseux. L'euthanasie n'est pas de gauche. Ça, bon, voilà. Et à consulter, donc, voilà. J'ai bien conscience que se faire un avis nuancé en prenant en compte tous les arguments demande du temps, que vous n'avez peut-être pas, alors que voter simplement cette loi est plus rapide et plus populaire. Mais c'est la seule chose réellement morale à faire. En effet, notre avis n'a jamais été entendu dans les débats, nous n'y avons pas été invités. Point très important, Denis, même lors de la convention citoyenne sur ce sujet préalable au projet de loi de 2024, gouvernemental, aucune personne handicapée n'était présente, ni aucune association anti-validiste dans la commission ad hoc. Les personnes étaient des valides. Ce n'est absolument pas normal dans un débat démocratique. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de la crise sanitaire du Covid et du moment où un tri des patients pour avoir accès aux lits de réanimation était nécessaire et où une enquête, notamment signée par Caroline Coxodorge de Mediapart, avait bien établi que les personnes qui étaient officiellement des personnes développant et atteintes de pathologies mentales avancées officiellement n'étaient absolument pas prioritaires pour accéder à la réanimation. Au contraire, elles étaient triées. À ce moment-là, le choix le plus populaire était celui de ne pas donner accès aux meilleurs soins aux personnes handicapées et âgées, afin de favoriser les chances de survie des personnes jeunes et valides. Il ne faut pas oublier que quand il y a un état de guerre dans un pays, c'est les personnes handicapées qui sont sacrifiées d'abord. Il ne faut pas l'oublier. C'est la preuve, selon moi, du validisme et de l'agisme intégré de la société, médecins compris, puisque la vie de ces personnes leur semble avoir moins de valeur. Comment une application de l'euthanasie pourrait alors se faire sans aucun de ces billets ? C'est impossible, et malgré toutes les limites possibles et précautions que vous ajouterez à cette loi, même si vous en avez déjà rejeté plusieurs en commission des affaires sociales, celle-ci dit aux personnes vulnérables que c'est plus facile de les aider à mourir que de les aider à vivre. D'abord, c'est plus économique. En effet, l'accès aux soins des personnes handicapées reste difficile en France, comme le dit la Défenseure des droits dans son rapport récent. L'allocation aux adultes handicapés est en dessous du seuil de pauvreté. Il manque 150 euros à peu près. L'application de la loi de 2005 sur l'accessibilité est sans cesse repoussée. La discrimination au travail des personnes handies et malades chroniques n'a pas diminué. Ce qu'il faut voir, c'est que la légalisation de l'euthanasie ouvre également la question de la remise en cause de la viabilité des personnes en ALD, en affection longue durée. Parce que bon, les personnes à affection longue durée, c'est l'incurabilité, etc. etc. Et comme l'a très bien développé ce député Les Républicains, pour les dialyser, c'est incurable. Et le pronostic vital peut être engagé. Alors la ministre a eu beau répondre, oui, mais c'est traitable. Il n'en reste pas moins. Il faut savoir ce que c'est que la rationalité hospitalière. C'est d'une cruauté pas mal. Alors, donc, avec l'application de la loi de 2005 sur le handicap, sur l'accessibilité sans cesse, l'accessibilité sans cesse repoussée, la discrimination au travail est énorme. Il ne faut pas non plus ignorer les avantages financiers extrêmement cyniques de cette loi. Aider une personne à mourir, c'est moins coûteux que de l'aider à vivre. D'ailleurs, grâce à cette loi, le Canada a d'ores et déjà fait des économies. Ainsi, je vous demande, vous supplie, de vous renseigner au maximum, d'écouter les avis divergents, de ne pas tomber dans la facilité, vous souvenir que la solidarité est la plus grande valeur de la gauche, et que cette loi, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est le contraire de la solidarité. Après tout ce travail de recherche, je ne doute pas que vous prendrez conscience que l'euthanasie n'est pas de gauche. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là affectent à la gauche une valeur magique, franchement. Quand on sait ce qui s'est passé en 40, mon vieux, entre le pacte germano-soviétique, entre le vote des pleins pouvoirs à Pétain, 56, le vote des pleins pouvoirs pour la guerre d'Algérie, quand même, Jules Ferry était de gauche, enfin. Jules Ferry était de gauche, quand même, tu vois. Mais bon, enfin, bon, ça, c'est des appartenances. Elle est au contraire une solution de facilité par rapport à la solidarité et un aveu d'échec des services publics, médicaux et sociaux. C'est une loi qui n'est bonne que pour une population bourgeoise qui a accès à toutes les possibilités de soins, d'accessibilité, de logement, de loisirs, mais qui choisirait quand même et tout à fait librement la mort. Bon, je suis pas d'accord avec ça. C'est une loi qui est faite pour une population indemne et insérée. Voilà, valide, ou à peu près valide et insérée. Ou dont la non-validité est supportée, encadrée, encouragée. Alors, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé, tiens, à propos, comment Antonin Artaud a sauvé sa peau durant la Deuxième Guerre mondiale ? Il était encouragé à faire le cinglé en poésie pour le psychiatre qui acceptait de l'alimenter. Vous vous dites peut-être que ne pas voter cette loi correspond à refuser un service à des personnes qui souffrent énormément et sont en fin de vie. C'est faux, car elles y ont déjà droit. Si la loi Claeys-Leonetti était mieux connue et appliquée, les personnes en fin de vie pourraient être beaucoup mieux accompagnées jusqu'au bout. Cette loi permet en effet une sédation profonde et un arrêt des traitements, hydratation et nutrition compris, dans les cas difficiles. Ces mesures ne permettent pas une euthanasie à proprement parler, mais permettent de précipiter la mort sans souffrance, sédation profonde. Pourtant, l'absence de soins palliatifs dans nombre de départements. Il semble que le quart des départements en France soit démuni de services de soins palliatifs. Dans tous les donc l'absence de soins palliatifs dans tous les départements et surtout la méconnaissance de cette loi par les médecins et les patients empêche sa pleine application. Avec la loi Claeys-Leonetti, une loi de fin de vie est inutile. Elle est inutile sauf si on assume que la majorité de la population pense que d'autres personnes sont un fardeau, pour leur famille et la société que leur mort est préférable à leur vie. Ce que redoute un centre de psy dans leur appel, de psychiatre, c'est ce qu'a d'ailleurs exprimé le président Trump en voyant le fils autiste de son neveu. Il a suggéré de le laisser mourir et aurait dit à propos des personnes handicapées que vu ce qu'elles coûtent à la société, il vaudrait sans doute mieux les faire mourir. Étant donné la fascisation actuelle de la société, n'est-il pas extrêmement dangereux de faciliter l'accès à la mort d'une certaine catégorie de personnes ? Ne risquons-nous pas une montée de l'eugénisme ? L'eugénisme, ce n'est pas le bon concept. L'eugénisme, c'est pour la naissance. À l'heure actuelle, déjà, on mettrait tout en œuvre pour empêcher le suicide d'une population valide, mais ferions-nous moins d'efforts pour prévenir le suicide chez une population handicapée, car on jugerait cette envie de mort comme légitime ? Et là, c'est le fameux billet d'Elena Chamorro, avec ce dessin caricatural. Une personne handicapée sur chaise est devant deux escaliers, enfin une pente et un escalier. Il y a un escalier programme prévention de suicide, comme elle est sur chaise, elle ne peut pas y accéder. Et un pont incliné,
une rampe,
programme suicide assisté. Donc, or, c'est là que si on pense sincèrement qu'une vie handicapée vaut au moins d'être vécue, c'est ce qui se passera. Elle est, dans beaucoup de cas, plus dure à vivre, mais elle pourrait ne plus l'être s'il y avait une véritable ambition politique en ce sens. Au contraire, il a déjà été voté un délit d'entrave qui condamne toute personne qui tenterait de dissuader le recours au suicide assisté, ce qui interdit donc la prévention. Ça tend à interdire, ça tend à problématiser, à rendre compliqué la prévention du suicide auprès de personnes malades et handicapées qui seraient suicidants. Aujourd'hui, on a donc le droit d'inciter, aujourd'hui, on a donc le droit d'inciter une personne à mourir, mais pas le droit de l'inciter à vivre. Comment ne pas déceler déjà un risque immense de dérive ? Alors, j'imagine votre envie de me rétorquer que je ne cesse de parler de personnes handicapées alors que le texte ne fait pas mention de ce terme. Or, une grande part des personnes handicapées le sont du fait d'une maladie. Et cette maladie pourrait un jour être la raison de leur mort. De fait, les personnes handicapées sont bien une cible de cette loi. D'ailleurs, le critère numéro 3 des conditions d'accès à l'aide à mourir stipule qu'il faut être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Nous ne parlons pas ici de personnes en agonie, mais d'innombrables personnes atteintes d'affections de longue durée, de personnes handicapées. Enfin, sachez que je suis en réalité pro-choix, mais je veux que tout le monde puisse faire un choix complètement libre et dépourvu de billets validistes. Je vous demande aujourd'hui d'opter, non pas pour faciliter la fin de vie des plus vulnérables, mais pour un projet de société réellement inclusif, tolérant, avec des services publics performants et pensés pour tous les humains sans exception, quelle que soit leur capacité physique ou mentale, leur autonomie. Dans ce monde égalitaire, nous pourrions décider de mourir librement, mais ce monde n'existe pas encore. Je vous remercie d'avance de faire le bon choix et de voter contre la loi fin de vie. Alors là-dessus, c'est une question de philosophie de l'être humain. Il y a là une conception de l'être humain qui est ultra-libérale et très propice pour les libertariens. Les libertariens qui ont pris le pouvoir aux USA, par exemple. L'optique libertarienne, à la base, lorsque le capitalisme a été développé, c'est une optique de pleine autonomie.
Individuelle, surtout.
Oui, individuelle. C'est une optique individualiste de pleine autonomie. Or, une telle optique ne correspond qu'à une partie infime de l'espèce humaine. La partie la plus dominante, la plus chanceuse, la plus puissante, celle qui de facto asservit et assujettit le restant de la population. Donc, cette conception d'une autonomie pleine et entière à ce point de l'espèce humaine, et des êtres humains et de la population, méconnaît ce qui se passe pour la majorité de la population, à savoir que dès le circuit scolaire, des gens sont invalidés, sont cassés, sont mis en handicap et sont en quelque sorte soustraits de cette conception. Cette conception de l'être humain en France pleinement autonome, qui la remplit ? Elle correspond à qui, au juste ? Est-ce qu'on est pleinement autonome quand on crève la dalle ou quand on a juste que le RSA pour vivre ?
On est tous en interdépendance avec les autres, de toute façon.
De toute façon, l'homme est un animal social. Oui. Mais je veux dire, de toutes les façons, ça c'est... Mais c'est... Enfin, il faut bien voir que cette conception d'un être humain autonome, c'est une conception anglo-saxonne à l'américaine. Hein.
Mais c'est une autonomie prédatrice, en fin de compte.
En réalité, oui. En réalité, oui. Enfin, je veux dire, est-ce que le membre d'une minorité qui est complètement accro à je ne sais quelle substance aux USA et qui va crever d'une overdose de fentanyl, par exemple, cet être humain aura-t-il mené une vie en pleine autonomie ?
On est toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec André Bitton. Et on a longuement parlé de la loi sur l'aide médicale à mourir. En avons-nous tout dit
On va revenir dessus, hein, parce que ça va être un feuilleton jusqu'à la rentrée. Hein. Ça peut même réserver des rebondissements très importants. Hein, parce que je pense que ça a été vu comme étant la loi de société, sociétale, de cette nouvelle législature. Hein. Mm-hmm. Carrément. C'est-à-dire, Emmanuel Macron veut porter cette loi, et donc... qui est de gauche.
Ouais. Alors, un autre sujet, donc il y a eu une jurisprudence sur l'isolement et la contention.
Une autre jurisprudence de la Cour de cassation, en l'espèce, c'est une décision de la première chambre civile du 9 avril 2025, alors commentée sur Dalloz Actualité par le magistrat Cédric Hélène, en charge de ce commentaire pour Dalloz. Une décision rendue le 9 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de Casse précise que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure d'isolement-contention et son lien avec le patient doit figurer à la procédure à peine d'irrégularité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'une mesure d'isolement avec ou sans contention dure pendant au moins 48 heures, le psychiatre prescripteur doit prévenir, ça c'est avant le contrôle judiciaire obligatoire. Le contrôle judiciaire obligatoire, c'est quand c'est 72 heures. Mais quand ça dure 48 heures, il doit prévenir, soit sur demande le juge des libertés et de détention, si le patient le demande ou son entourage, soit les parents, les PACS, la personne conjointe ou la personne PACSée, une personne de la famille, et également une personne dûment désignée par la personne comme pouvant agir dans son intérêt, personne de confiance et autres, ou amis, qui puisse intervenir dans cette affaire et représenter en quelque sorte la personne auprès de l'équipe. Bien. Et dans une cassation précédente, dans une décision du Conseil constitutionnel, le fait qu'il n'y ait pas de mentionné dans la liste de ces personnes le curateur ou le tuteur a été considéré comme non constitutionnel et donc à réformer. Bon, mais il n'en reste pas moins que la Cour de cassation dit que dans le dossier qui est soumis au juge de contrôle, lorsque la mesure est prolongée, 72 heures, lorsqu'il y a une saisine facultative, et que donc cette mesure est prolongée au-delà de 48 heures, il doit être inscrit au dossier, quelle personne, soit de l'entourage, soit ayant intérêt à agir, a été informée du maintien. Et que cette mention est du nom de la personne et de son lien avec le patient doit être indiqué pour que le juge puisse vérifier si la hiérarchie indiquée dans le texte des personnes à prévenir a été respectée, à savoir un membre de la famille d'abord ou une personne habile à intervenir, etc. Alors là-dessus, parmi les suggestions sur la récente décision de censure par le Conseil constitutionnel de ce dispositif, il y avait que le texte ferait mieux d'indiquer au niveau du travail législatif non pas où mais et. À savoir qu'il soit que en cas de maintien, soit informé le conjoint et...
Eh oui.
Alors, la question du « et où » pose problème, parce que, de toutes les façons, il y a quelque chose qui est propre à la psychiatrie, c'est que les personnes hospitalisées n'ont pas nécessairement intérêt à ce que leur famille soit prévenue. les conflits de famille.
Oui, oui.
Voilà. Donc, alors, c'est quand même... on voit que la Cour de cassation continue son travail de, d'éclaircissement, complexification, hein, de rationalisation, je veux dire, de cette législation qui est devenue un espèce de... à la base, c'était un espèce de buisson qui tend à devenir une espèce de forêt dans laquelle des juristes très précis essayent de se retrouver. Mais la personne concernée elle-même, si elle veut creuser, alors là, franchement... mais enfin, auparavant, c'était la même chose, mais on a au moins une seule et même juridiction à laquelle on s'adresse, c'est déjà ça. Parce qu'auparavant, il y avait juridiction administrative, juridiction judiciaire, tandis que là, on a un seul et même juge, déjà pour le contrôle, et après, si on veut contester a posteriori une mesure, c'est le juge judiciaire, indemnitaire, etc. Il y a eu au moins... une unification de compétences. Donc ça, le travail jurisprudentiel continue. Alors maintenant, passons à autre chose. Comment dire ? Mediapart a consacré une série d'enquêtes publiées le 13 mai, le 16 mai et le 19 mai sur le fait qu'avec la désinstitutionnalisation en psychiatrie, hein, les groupes privés en santé... Et là, en l'espèce, le groupe Corian, qui est devenu Clarian, ont réalisé que c'était un terrain idéal pour le chiffre d'affaires, puisque l'État se désinvestissait, que donc là où des lits sont fermés, on génère une clinique avec des lits, et dans laquelle, qui peut être tout à fait conventionnée, hein, il faut savoir que le prix de journée d'une clinique privée est nettement moins cher que le prix de journée publique. Trois fois, quatre fois moins cher. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent, ils disent qu'ils sont conventionnés, bon, voilà. Mais dès qu'on réclame la moindre prestation, alors là, c'est tarifé. Par exemple, on est en chambre à deux, et donc, ah, vous voulez une chambre seule, alors ça catapulte. Vous voulez la Wi-Fi dans votre chambre, plaf, en avant. Et donc, ce qu'ils ont vu également, c'est que, avec les progrès de la pénétration de la France au titre du marché des stupéfiants, hein, c'est que les classes privilégiées sont très concernées par les soins psychiatriques et peuvent payer. Mmh. Et peuvent payer. Que donc, le privé lucratif en matière psychiatrique, c'est intéressant. Et donc, le chiffre d'affaires est en train de faire un bang, puisqu'on... Enfin, je crois qu'il y avait quelque part une statistique au niveau économique qui était de l'ordre... voilà, la progression, voilà, de fait en psychiatrie, la part des lits du privé lucratif ne cesse d'augmenter, passant la part des lits du privé lucratif hein, dans la psychiatrie de 11% en 1975 à plus de 30% en 2024. La rentabilité est assurée. C'est une pompe à fric, de même que les EHPAD, ou de même que les centres pour handicapés, avec les ESAT. Dans lesquels, de plus en plus, quand même, Mediapart, de plus en plus, sort quand même des enquêtes sur des ESAT, des centres d'aide par le travail, révélant, ils en ont sorti une récemment, que des personnes handicapées en entreprise adaptée, hein, cette fois, c'est pas les ESAT, c'est l'entreprise adaptée, sont surexploitées avec exigence de cadence de travailleurs ordinaires. Donc, alors, on apprend d'autre part, et je terminerai là-dessus, que, en fait, le groupe Corian, devenu Clarian, a en fait tout à fait investi en Italie. Et là-dessus, cette enquête révèle, puisque l'Italie, par la loi 78, la loi Basaglia, a en fait interdit les hôpitaux psychiatriques publics. Alors, c'est pas simple, puisque en fait, ils ont un réseau d'établissements judiciaires, d'établissements psychiatriques judiciaires. Et d'autre part, ce que l'on apprend, c'est que les groupes privés ont investi en ouverture de cliniques et que des gens qui ont subi une peine psychiatrico-judiciaire, à leur sortie désocialisée, en rupture de ban, sans logement, sont aiguillés vers des cliniques privées qui les gardent en situation de contrainte de fait et ils restent jusqu'à leur mort. C'est tout. Que donc, et cela, c'est financé par la sécurité sociale et autres. Donc, en fait, rien n'est simple. On peut même dire que si c'est cela, alors ça dépend des régions. C'est en Italie, c'est très régional. Si les patients ont la chance d'être sur Trieste, Gorizia, etc., là où le courant antipsychiatrique, là où les centres de santé mentale dans la ville y sont, où la prise en charge extra-hospitalière y est développée, ça va. Mais dans d'autres provinces, ça ne va pas. Hein. Alors, je pense même qu'on peut dire que tout ce qui est sous la latitude de désinstitutionnalisation est en quelque sorte, d'une part, mise en échec à travers cela, et que le baratin qu'on nous sert cache une division, une psychiatrie à plusieurs vitesses. Tout simplement, une psychiatrie à plusieurs vitesses. Moi, j'avais eu l'honneur de m'en rendre compte dans mon propre parcours de soins dans les années 90, où j'avais quand même fait la tournée des popotes de ce que je pouvais bénéficier. À titre libre, puisque le service libre avait été légalisé, et je m'étais rendu compte que, en effet, dans une clinique psychiatrique privée que j'avais fréquentée, qui est un cas type, c'est un exemple type, par exemple, bon, moi j'étais sur la CMU, sur l'aide médicale gratuite, donc je ne recevais pas le détail, mais d'autres qui étaient des salariés et qui émargeaient de leur mutuelle, recevaient par le biais de leur mutuelle ce qu'il en était. Et ce truc scandaleux qui est là, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Hein. Les patients de telle clinique psychiatrique privée astreint à rester au pied du lit à 10h30. Le psychiatre passant, et comment dire, c'est pour une visite médicale, comment dire, payé au psychiatre taux plein. Taux plein, c'est-à-dire la durée d'un entretien psychiatrique, c'est une demi-heure. Hein. 1 minute 30 par patient. En une heure, le psychiatre ayant vu une trentaine de patients et encaissant son bénéfice. C'est-à-dire 30 fois la consultation pleine.